rivière à ferraille.
Une chambre d'hôtel qui disparaît, un avertissement de Noël, des enfants dans le noir, une étrange maison, ce sont nos histoires du jour dans le bureau des mystères. Bonsoir et bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles, et on se retrouve enfin tous les deux, Mathias, puisque, comme vous avez pu l'écouter, nos deux derniers épisodes étaient des crossovers. Nous avions l'ancienne équipe, les deux tiers de l'ancienne équipe d'Exocet. Et d'ailleurs, on continue de remercier Thomas et Patrick de s'être prêtés au jeu de l'émission, à la fois de la discussion, puis ensuite de l'émission.
Et Mickaël, que Mickaël, je suis allé rencontrer à Paris et qui m'a raconté beaucoup d'anecdotes que je n'ai pas pu malheureusement tout diffuser, puisque voilà, on a parlé longuement et j'ai mis quelques extraits dans l'épisode Souvenirs d'Exocet qu'on a fait ensemble. Et voilà, c'était très agréable de rencontrer Mickaël et d'évoquer ses souvenirs de l'émission, donc je le remercie aussi pour le temps qu'il nous a accordé.
D'autant plus que les auditeurs et les auditrices ont adoré, on a eu des très bons retours, on est très très contents, on était particulièrement heureux de faire ces deux émissions. Et on est content parce qu'apparemment elles vous ont plu, donc merci à vous de les avoir écoutées et merci à nos invités de s'être prêtés au jeu.
Alors maintenant on se retrouve tous les deux, mais avant de reprendre le cours normal du bureau des mystères avec ces histoires et ces dossiers bien touffus que vous aimez bien, on a décidé de s'accorder une petite pause avec un sujet qui devrait vous plaire puisque vous l'attendiez avec impatience. Les creepypasta.
Et ouais, ça faisait partie des demandes, ça faisait partie des requêtes. À quand un deuxième épisode sur les creepypasta? Des histoires. Eh bien écoutez, il est arrivé, le moment est arrivé, puisque vous allez écouter le deuxième épisode sur les creepypasta.
Alors installez-vous confortablement, éteignez la lumière et ajustez bien vos écouteurs, car ce soir nous allons frissonner ensemble.
Des enfants dans le noir. Grandir dans le sud des États-Unis a signifié pour moi partager beaucoup de choses avec mon petit frère Oli. La plupart du temps, nous nous échangions nos jouets, nos vêtements et parfois même quelques maladies. Jusqu'à ses 6 ans, nous partagions même le même lit. Lui comme moi, n'apprécions pas particulièrement cela. Nous fêtions mon 10e anniversaire lorsque tout ça changea. J'ai reçu un cadeau cette année, et pas des moindres. Mon propre lit. Mon lit à moi. Oli était jaloux et je pouvais le comprendre. Lui devait se contenter d'un sommier à moitié cassé et d'un matelas au ressort un peu douloureux. Le mien n'était pas beaucoup mieux, mais au moins, il n'était pas cassé. S'endormir seul était un sentiment merveilleux. Une vraie sensation de liberté. Plus jamais je n'aurais à subir un coup de pied malencontreux dans l'estomac au beau milieu de la nuit, plus jamais je me réveillerais avec Oli se débattant dans je ne sais quel rêve. Enfin, c'est ce que je croyais. Dès que j'eus mon nouveau lit, des cris ont commencé à se faire entendre dans notre chambre. Au début, je croyais qu'Oli s'était réveillé au beau milieu de la nuit et s'était mis à crier parce qu'il avait peur. Peur d'être tout seul, peut-être. Mais ensuite, des sons semblables à des échos sont fait entendre dans notre petite pièce, et je savais qu'il ne s'agissait pas de cris normaux. La pièce était toujours plongée dans un noir profond après le coucher du soleil. La seule fenêtre que nous avions était collée au tronc d'un arbre immense, et même la lumière de la pleine lune ne parvenait pas à passer. Les cris commençaient à me rendre fou. Chaque nuit, sans doute à la même heure, ces complaintes aiguës me sortaient de mon sommeil. Ce n'était pas non plus mon père ou ma mère, et croyez-moi, je connais leur voix. Ce qui m'angoissait le plus et que je n'arrivais pas à déterminer, c'est d'où pouvaient bien venir ces bruits. Un soir, ils semblaient venir du placard, le lendemain, on aurait dit qu'ils sortaient de la buanderie. Oli se mit à se glisser en douce dans la nuit pour à nouveau dormir avec moi. Il n'arrêtait pas de bouger, de me taper. Il était extrêmement agité, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Ces bruits nous perturbaient tellement. Mais étrangement, ceux-ci semblaient s'atténuer quand nous dormions à nouveau ensemble. Il tremblait, mais je ne me retournais même pas. Je faisais semblant de dormir en espérant que nous pourrions, ensemble, retrouver le sommeil. Parfois, je lui prenais la main et lui promettais que tout allait s'arranger, même si je n'en étais pas vraiment sûr. Avec le temps, les cris se mirent à changer. Petit à petit, ils se mirent à ressembler au grognement d'un primate, alertant ses congénères d'un danger. Je devais presser mes oreillers contre mes oreilles pour pouvoir espérer dormir. Mon père et ma mère ne m'ont jamais cru, ni moi, ni au lit. Principalement parce que la chose, peu importe ce que c'était, refusait de faire du bruit quand ils étaient dans la même pièce. Les cris ont empiré jusqu'à ce que je ne puisse plus les supporter. Oli et moi n'allions même plus à l'école, nous étions trop fatigués. J'aurais sans doute mieux dormi en cours, les yeux grands ouverts, que dans ma propre chambre la nuit. Enfin, heureusement, nous avons déménagé, un an plus tard. J'étais passé par toutes les étapes, même les pensées les plus sombres pour un enfant de 10 ans. J'espérais une seule chose, ne plus avoir à entendre ces sons. Et les problèmes ont disparu dans la nouvelle maison. Elle était belle, c'était une petite maison de banlieue, moderne mais accueillante. Surtout, plus de lit cassé. Et plus de lit que j'aurais fini par partager à nouveau avec mon frère. Notre seul souci désormais était de savoir qui dormait sur la couchette du dessus ou du dessous. J'ai dit à Oli que je méritais de choisir, quand même, après tout. J'avais eu un nouveau lit pour mes 10 ans, et il avait tout ruiné en grimpant dessus tous les soirs pour ne pas être seul. « Quoi ?» me répondit-il, en secouant la tête en signe de protestation. « Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis jamais retourné dans ton lit quand tu l'as eu pour ton anniversaire. » Je m'étais toujours demandé pourquoi les cris s'arrêtaient à la seconde où je partageais mon lit. Maintenant, j'avais la réponse.
Ah, on aime bien ce genre de histoire, bien flippante.
Bah pareil, cette histoire, donc Kids in the Dark, dans sa version originale, qui est une histoire en anglais, que j'ai encore une fois essayé de traduire avec mon petit niveau et mon petit dictionnaire français-anglais, alias Google Translate. Et non, elle était pas mal, pareil, comme pour d'autres, elle était pas mal écrite. Et donc voilà, c'est un petit classique, en fait, j'ai envie de dire. Ça m'a fait penser à l'enfant sous le lit. Si je sais pas si tu te souviens de l'histoire, ouais. L'enfant sur le lit qui dit à son père, « Papa, j'ai peur, il y a un enfant sous mon lit, il est bizarre. » Et le père se baisse, il regarde sous le lit, et là, il y a son fils, au père, qui dit « Papa, j'ai peur, sur mon lit, un enfant bizarre. » Ça m'avait pensé un petit peu à ça, et du coup, j'avoue que...
Je sais pas si tu avais vu, mais il y avait une suite à cette histoire-là, avec une mise en abîme encore plus deep.
Ah bon ?
L'enfant, en fait, se demande si c'est vraiment sa mère ou pas. Ou son père, c'est vraiment son père ou pas, après. Et du coup, des deux côtés, ils ne savent pas s'ils ont connecté à la bonne dimension ou pas, ou s'ils ont été échangés.
Ah ouais, ça va un petit peu plus loin, donc.
Ouais, ouais, c'est beaucoup plus deep. Mais j'avais entendu cette version-là avec la suite, et j'étais un peu... Ouh là là, ça va encore beaucoup plus loin dans le malaise.
Et ouais.
Bon, bah écoute, merci pour cette histoire.
Mais de rien, c'est avec plaisir.
Avant de passer à des histoires plus longues, on va se faire une petite session d'histoires courtes, parce que c'est sympa aussi, les légendes urbaines relativement courtes. J'en ai une pour commencer. Je sais pas si tu l'as déjà entendue, on va voir, qui s'appelle Diaporama.
Ah, ça me dit rien.
Je l'ai trouvée sur un site de creepypasta, donc il y a beaucoup de creepypasta qui sont traduites en français. En l'occurrence, celle-là, je ne sais plus si je l'avais traduite ou pas. En tout cas, régulièrement, on en trouve comme celle-là. Celle-là, j'ai plutôt aimé. Je commence. Mes doigts tremblaient d'excitation quand j'ai ouvert le colis. Comme je l'avais espéré, c'était l'appareil photo que j'avais commandé sur eBay. Avec un certain plaisir, j'ai même pu constater que j'avais fait une meilleure affaire que prévu, puisque le précédent propriétaire avait laissé sa carte mémoire dans l'appareil. Comme je suis quelqu'un d'honnête, j'ai décidé d'envoyer un mail au vendeur pour l'avertir. Mais avant ça, la curiosité m'a poussé à voir s'il y avait quelque chose sur la carte SD. J'ai réglé l'appareil photo sur diaporama. La première photo montrait une adresse écrite sur un colis. Et la confusion a laissé place à l'horreur lorsque j'ai vu que la photo suivante était celle d'une personne brutalement assassinée. Le reste de la carte SD était une alternance de photos de colis avec une adresse, suivie d'une scène de meurtre. Et sur la dernière image, il y avait le colis que je venais d'ouvrir. Voilà. J'avais beaucoup aimé, j'avais un petit frisson là, en lisant celle-là. Une légende urbaine un petit peu classique qu'on retrouve, voilà, j'aime beaucoup. Ça me fait, en fait, elle m'a fait penser à celle que j'avais racontée dans notre tout premier numéro sur la dame au puzzle.
Mmh. Ah ouais, ouais, il y a un truc
comme
ça.
On est dans le même esprit. Ouais. Du coup, j'avais beaucoup aimé. Enfin bon, je te laisse enchaîner avec une autre petite histoire.
Alors, elle est petite, mais elle est un peu plus longue quand même.
D'accord.
Elle s'appelle « L'obscurité dans le rétroviseur ». Durant l'été 2013, je retournais en voiture chez moi, toute seule, sur l'autoroute A7. Je retournais enfin dans ma petite maison de campagne perdue dans les plateaux ardéchois. J'y habitais seule depuis 6 mois, et je ne regrettais pas ce choix. J'y étais bien. Il était presque minuit et je n'y voyais rien. Sur la route, c'était le noir complet. Comme d'habitude à cette heure-ci, j'étais à bout. J'avais éteint la radio et je n'entendais rien d'autre que le bruit des pneus sur le bitume et le ronronnement du moteur. J'ai jeté un œil au rétroviseur central et je ne voyais rien d'autre que de l'obscurité à travers la vitre arrière. Je sais que j'ai regardé derrière et je sais que je n'ai rien vu, j'en suis sûr. Juste l'infinie noirceur de la nuit. Je m'en souviens d'autant qu'une voiture m'a doublé moins de 10 secondes plus tard par la gauche. La voiture roulait pourtant plein phare. J'ai eu une de ces soudaines poussées d'adrénaline que l'on a quand on pense voir quelqu'un de l'autre côté de la vitre de sa chambre, mais qu'en fait ce n'était qu'un arbre. Ou quand on se réveille brusquement dans la nuit avec le sentiment d'être en chute libre. 10 secondes auparavant, il n'y avait rien derrière moi, puis une voiture me double. J'ai conduit le reste du trajet la peur au ventre, sachant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain soir, au moment de reprendre la route, j'ai remarqué 2 séries de rayures à l'arrière de mon van. L'une sur l'aile droite, l'autre sur l'aile gauche. Cette voiture était très vieille. Elle était peut-être là depuis des mois, mais c'était la première fois que je l'ai remarquée de cette manière. Rétrospectivement, il y a 2 hypothèses pour expliquer ce qui s'est passé cette nuit. La première, par un genre de glitch de la réalité ou quelque chose de paranormal, cette autre voiture est on ne sait trop comment apparue derrière moi entre les 10 secondes qui séparent le coup d'œil dans le rétroviseur et le moment du dépassement, comme un étrange fantôme ou un truc du genre. Cependant, la seconde hypothèse me donne des frissons rien qu'à y penser. Ça ne m'était pas venu à l'esprit des mois après que cela arrive. Mais j'ai encore plus peur de conduire désormais seul la nuit. Cette deuxième possibilité, cette deuxième hypothèse, c'est que la voiture qui m'a doublé était parfaitement réelle et parfaitement normale. Elle m'a approché par l'aile, m'a surpris à cause d'un angle mort et m'a doublé par la gauche. Mais peut-être que quelque chose de grand, de très grand, de profondément obscur, aussi obscur de la nuit, était accroché à l'arrière de ma voiture, m'empêchant de voir clairement par la vitre arrière et expliquant les traces, les griffures des 2 côtés de mon van. Et peut-être que, sans le vouloir, je l'avais ramené à la maison avec moi. Elle est assez classique.
Ouais, mais ça n'arriverait pas dans la réalité d'aujourd'hui si tu te ferais arrêter à un rond-point avec les gilets jaunes et ils le verraient qu'il y a quelque chose derrière toi.
Alors, excusez-moi, monsieur, vous avez quelque chose d'accroché dans votre voiture.
Excusez-moi, je crois que la chose à l'arrière de votre voiture n'a pas envie de klaxonner et ne veut pas signer notre pétition et ça nous dérange beaucoup.
Ouais, mais rappelle-toi, on est au beau milieu du plateau ardéchois. Hein. Alors, je sais que dans la Drôme, il y a des ronds-points bloqués, mais je sais pas pour l'Ardèche. Enfin voilà, il faut forcément avoir le permis et vivre sur les petites routes ardéchoises aussi pour en avoir peur.
Eh bien écoute, c'était pour le moins effrayant effectivement. Je vais maintenant raconter une histoire un petit peu plus longue je pense. Attention, accrochez-vous à vos slips. Noen House. Alors cette histoire-là, est un classique. Noen House, c'est un petit peu une des creepypastas les plus connues, je pense, mais bon, je sais que certains de nos auditeurs ne connaissaient pas, par exemple, Candle Cove et l'ont découvert avec nous, donc ce serait un plaisir ce soir de leur faire découvrir Noen House, qui est pour moi une excellente creepypasta.
Et elles ont la particularité, toutes les deux, d'avoir été adaptées en série pour Channel Zero. C'est la saison 1, c'est Candle Cove, et la saison 2, c'est Noen House.
Alors là, je l'ai un petit peu raccourci, puisque Noen House, la creepypasta d'origine, est extrêmement longue. Là, je l'ai un petit peu raccourci, mais vous allez voir que ça reste quand même plutôt flippant comme histoire. Et je commence tout de suite. Je n'avais pas revu Peter depuis la fac. Nous étions amis à l'époque et nous avons continué à nous voir après que j'ai eu mon diplôme. Lui a abandonné la fac après 2 années passées de justesse. Je crois que son addiction à l'héroïne était sûrement pour quelque chose. Après la fac, je n'ai plus vu Peter autant qu'avant. Et après 1 an, sans signe de vue, je me suis dit qu'il avait dû m'oublier. Et puis une nuit, il m'a envoyé un message sur Facebook. « David, mon vieux, il faut qu'on parle. » Et c'est là qu'il m'a parlé de Noen House. On l'appelle comme ça parce que personne n'a jamais atteint la sortie. Les règles étaient assez simples et plutôt clichés. Si tu arrives jusqu'à la dernière pièce de la maison, tu empoches 500$. Il y avait 6 pièces en tout. La maison était située hors de la ville, à plus ou moins 6 bornes de chez moi. Apparemment, Peter avait essayé et perdu. Mais comme il était accro à l'héroïne et sans doute à d'autres substances, je supposais qu'il était défoncé et qu'il avait sûrement pris peur devant un fantôme en carton ou un truc du genre. Il m'a dit que c'était beaucoup trop dur pour être réussi par qui que ce soit, que ce n'était pas naturel. Je lui ai dit que j'allais y jeter un œil le lendemain soir. Il a essayé de me convaincre de ne pas le faire, mais sur le moment, 500$, ça me paraissait vraiment trop beau pour être vrai. Je devais y aller. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette maison. J'ai marché vers le bâtiment et le malaise s'est intensifié quand j'ai ouvert la porte. Mon cœur a ralenti et j'ai lâché un soupir de soulagement en entrant. La pièce ressemblait à un simple hall d'hôtel décoré pour Halloween. Aucun employé n'était présent et à la place il y avait juste un panneau qui disait « Première pièce par ici, 4 suivent, atteignez la fin et vous gagnez ». J'ai pouffé de rire et je me suis dirigé vers la première porte. Et la première pièce était presque risible. Le décor ressemblait au rayon Halloween d'un supermarché avec des draps suspendus qui faisaient office de fantômes et des mannequins de zombies qui poussaient quelques grognements préenregistrés quand on passait devant. Tout au bout de la pièce, il y avait une sortie. À l'exception de celle par laquelle j'étais entré, c'était la seule porte. Alors je suis passé à travers les fausses toiles d'araignée et je me suis dirigé vers la seconde pièce. J'ai posé la main sur la poignée et j'ai immédiatement senti mon cœur s'emballer. Je ne voulais pas ouvrir cette porte. Le sentiment d'effroi qui m'a envahi était si fort que je pouvais à peine réfléchir clairement. Après quelques instants terrifiés, la logique a repris le dessus, je me suis ragaillardi et je suis entré dans la pièce. Et c'est dans cette pièce que les choses ont commencé à changer. A priori, elle ressemblait à une pièce normale. Elle était entièrement vide et une chaise était simplement posée sur le plancher en bois sombre. Une lampe dans un coin éclairait faiblement la pièce et lançait quelques ombres sur le sol et les murs. Et c'était justement ça le problème. Des ombres. Au pluriel. Il y avait d'autres ombres que celles de la chaise. J'étais à peine entré dans la pièce et j'étais déjà terrifié. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans même y réfléchir, j'ai immédiatement tenté de rouvrir la porte par laquelle j'étais entré, mais elle était verrouillée de l'extérieur. J'étais trop effrayé pour tenter d'expliquer ça. Je me suis retourné et les ombres étaient parties. J'ai commencé à me sentir mieux. Je regardais le sol tandis que j'avançais et c'est là que je l'ai vu. Ou plutôt que je ne l'ai pas vu. Mon ombre n'était pas là. Je n'avais pas le temps de crier. J'ai alors entendu un grand bourdonnement se mettre à résonner dans toute la pièce de plus en plus fort. C'était assourdissant. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la porte numéro 3 et je me suis engouffré sans réfléchir dans la salle suivante. J'ai repoussé la porte derrière moi, les yeux fermement clos et les oreilles encore douloureuses. Le bourdonnement était tout autour de moi. Alors que la porte se verrouillait dans ses gonds, le bourdonnement s'est évanoui. J'ai ouvert les yeux, pour me rendre compte que la porte que je venais de fermer avait disparu. À la place, il y avait un mur. J'ai regardé autour de moi, choqué. La pièce était identique à la précédente. La même chaise, la même lampe, mais cette fois rien d'anormal avec les ombres. La seule vraie différence était qu'il n'y avait pas de porte de sortie, et celle par laquelle j'étais entré venait de disparaître. C'est à ce moment-là que j'ai sombré dans ce qu'on pourrait appeler la folie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas émis un son. Au début, j'ai doucement gratté le mur. Il était solide, mais je savais que la porte était quelque part, elle devait être quelque part. J'ai gratté, plus insistant, là où devait se trouver la poignée. J'ai griffé de mes deux mains, frénétiquement, en cassant, en retournant mes ongles contre le bois du mur. La porte était là, je savais qu'elle était là. Si seulement je pouvais traverser ce mur. Et puis soudain, j'ai entendu une voix. Est-ce que ça va ? C'était une petite fille. Elle portait une robe blanche légère qui lui descendait aux chevilles. Ses cheveux blonds lui arrivaient au milieu du dos, sa peau était pâle. Ses yeux, d'un bleu éthéré, brillaient d'une lueur malsaine. Elle était sûrement la chose la plus effrayante que j'avais jamais vue. Je suis resté immobile, en fixant du regard la chose qui venait de me parler. Il n'y avait pas de sortie. J'étais piégé avec elle. Je ne savais pas quoi faire, j'étais en train de glisser dans la folie, mais je ne pouvais pas quitter des yeux ce qui se trouvait devant moi. J'étais étendu sur mon flanc, priant pour que ça s'arrête. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'arrive pas à croire. Un grand rectangle était découpé dans le bois. Juste devant moi se trouvait le grand 4 que j'avais griffé sans le savoir peu avant. Je ne sais pas comment j'avais fait ça, mais j'avais créé la porte. Dans ma folie, j'avais creusé dans le mur ce dont j'avais le plus besoin, une sortie. J'ai cligné des yeux et c'est maintenant une porte qui se trouvait devant moi. Une porte ordinaire frappée d'un grand 4. J'ai tourné la poignée et je suis entré. La porte s'est refermée derrière moi et j'ai réalisé où je me trouvais. J'étais dehors. J'avais envie de pleurer. Je suis tombé à genoux, j'ai voulu laisser les larmes couler mais je n'y arrivais pas. J'étais finalement sorti de cet enfer. Je ne me souciais même pas du prix que j'étais censé recevoir. Je me suis dirigé vers ma voiture et je suis rentré chez moi, en pensant avant tout à prendre une bonne douche en arrivant. J'ai franchi le seuil de ma maison et je me suis dirigé aussitôt vers ma chambre. Je suis ensuite entré dans la cabine de douche, je me suis préparé pour ce qui était sûrement une nuit sans sommeil. Après la douche, je suis allé à la cuisine dans l'idée de me faire à manger. J'ai descendu les escaliers et je suis passé devant le salon. Ce que j'y ai vu restera marqué au fer rouge dans ma mémoire. Mes parents étaient étendus sur le sol, nus et ensanglantés. Mutilés au point qu'ils étaient à peine reconnaissables. Leurs membres avaient été tranchés et étaient alignés à côté de leur corps. Leur tête, également tranchée, avait été posée sur leur poitrine, me faisant face. Ils souriaient, comme s'ils étaient contents de me voir. J'ai vomi mes tripes et je me suis écroulé à genoux en larmes. Je ne savais pas ce qui avait pu se passer, ils ne vivaient même pas avec moi à l'époque. Et c'est là que je l'ai aperçu. Une porte qui n'aurait pas dû être là. Une porte frappée d'un grand 5 tracé avec du sang. J'étais toujours dans la maison. Le sourire qu'affichaient mes parents s'élargissait à mesure que je le réalisais. Ce n'étaient pas mes parents, ça ne pouvait pas être eux. Mais ils le ressemblaient beaucoup trop. Le bourdonnement est revenu, plus fort que jamais. Il enveloppait entièrement la chambre et faisait trembler les murs. Le bourdonnement m'ordonnait d'avancer vers la porte. Dans un élan désespéré, je me suis précipité vers elle, je l'ai ouverte d'un coup, et je l'ai claqué derrière moi. Après ce que je venais de vivre, aucun doute, cette maison ne pourrait rien me faire subir que je ne saurais traverser. Malheureusement, je sous-estimais grandement les capacités de la maison. J'ai encore du mal à croire à ce que j'ai vu dans cette pièce. Un homme était assis sur une chaise, au centre. Après quelques secondes à essayer de nier ce que je voyais, j'ai réalisé. L'homme qui se tenait au centre de la pièce, c'était moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait, c'était moi, David Williams. Je me suis rapproché, je devais voir ça de plus près quand même, je devais être bien sûr que c'était moi. Il a relevé la tête et il m'a dit en pleurant, « Pitié, pitié pas ça, ne me fais pas de mal. » J'ai essayé de le rassurer, mais il s'est mis à sangloter plus fort. « Si, tu vas me faire du mal, et je ne veux pas que tu me fasses du mal. » Il s'est recroquevillé sur sa chaise et s'est mis à se balancer d'avant en arrière. Il n'arrêtait pas de répéter que j'allais lui faire du mal, inlassablement. Puis je l'ai aperçu. Le David qui était assis devant moi portait les mêmes vêtements, à l'exception d'un morceau de tissu rouge. Un 6 brodé sur sa chemise. Mes yeux n'arrivaient pas à se détacher de ce nombre brodé sur sa poitrine. Je savais parfaitement ce que ça voulait dire. Mon double répétait encore « Tu vas me faire mal, tu vas me faire mal » en se balançant. C'était moi, dans les moindres détails jusqu'à sa voix. Mais ce 6... J'ai marché nerveusement devant lui tandis qu'il sanglotait. Sous sa chaise se trouvait un couteau. Une note l'accompagnait. Pour David, de la part de la direction. J'ai senti mon estomac se nouer en lisant ces mots, j'avais envie de vomir. C'était trop pour moi. La maison et ceux qui la tenaient s'amusaient à me faire souffrir depuis des heures. J'ai pris le couteau, et au moment même où je l'ai touché, l'autre David s'est calmé. David, c'était ma voix que j'entendais. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis levé, j'ai empoigné fermement le couteau et j'ai répondu « Je vais me sortir de là. » Il m'a regardé terrifié, c'était comme si je regardais dans un miroir. Puis le bourdonnement est revenu, faible, lointain, mais je le sentais au plus profond de mon corps. Le bourdonnement s'est rapproché et j'ai senti quelque chose se rompre en moi. D'un geste, j'ai abattu le couteau sur sa poitrine et j'ai élargi la plaie vers le bas. Toutes les lumières se sont éteintes et je me suis senti tomber. Je suis resté dans la sixième salle pendant ce qui m'a semblé des jours. La dernière salle. La fin. Et c'est précisément ce qu'elle était. La fin. No End House avait une fin et je l'avais atteinte. Arrivé là, j'ai abandonné. Je savais que j'allais rester pour toujours dans cet entre-deux, avec les ténèbres pour seule compagnie. Le bourdonnement n'était même plus là pour maintenir mes sens éveillés, j'avais perdu toute perception. Je n'étais même plus conscient de mon propre corps. Je ne pouvais plus rien entendre. Je savais où j'étais. C'était l'enfer. La sixième salle, c'était l'enfer. Puis c'est arrivé, une lumière, l'image classique de la lumière au bout du tunnel. Je me suis mis lentement à marcher vers elle. Alors que je m'approchais de la source, elle a commencé à prendre forme. C'était un rayon de lumière vertical, l'embrasure d'une porte qui n'était marquée d'aucun chiffre. J'ai poussé la porte, et je me suis retrouvé là où j'avais commencé, le hall de No End House. Il était exactement tel qu'il était quand j'avais passé la première porte. Toujours vide, toujours décoré avec de puérils articles d'Halloween. Sur le guichet, il y avait une enveloppe à mon nom. À l'intérieur, un feuillet manuscrit qui disait « David Williams, félicitations. Vous êtes arrivé au bout de No End House. Veuillez accepter ce prix en gage de votre exploit, signé la direction. » L'enveloppe contenait 5 billets de 100$. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. J'ai ri ce qui m'a semblé des heures. Je riais quand je suis retourné à ma voiture, je riais sur la route vers chez moi. Je riais pendant que je garais ma voiture dans l'allée. Je riais pendant que je tournais la clé dans la serrure. Et je riais quand j'ai aperçu le 7 gravé sur la porte d'entrée. Et voilà.
Avec un cliffhanger.
Eh oui. Un cliffhanger qui est bien exploité dans la série, d'ailleurs,
ouais.
Channel Zero.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de choses, beaucoup de... Je pensais pas que c'était... Tu vois, je sais pas si je l'avais déjà lu, je crois pas. En tous les cas, je l'avais jamais entendu comme ça. Et on voit tout de suite... Bah déjà, c'est... Rien que toi, quand tu la racontes, on voit que c'est méga visuel.
Ah oui, c'est très, très visuel. Il y a plein de détails. Et encore là, justement, j'ai réduit parce que normalement, il y a plus de salles dans la version intégrale, mais ça aurait été vraiment trop long. Et tout est extrêmement bien décrit, en fait.
D'accord.
Il y a vraiment à chaque fois le sens du détail. Ça m'étonne pas qu'ils l'aient adapté en série, du coup.
Ouais, ouais, ouais.
Même s'ils ont pris des parties pris esthétiques très différents de ce qui est décrit dans la creepypasta d'origine. Mais ça reste... Et surtout, il y a cette montée en puissance que j'aime beaucoup avec les chambres.
Ouais. Et puis les trucs qui renvoient des concepts psychologiques qui sont dans la creepypasta, en fait.
Exactement.
Ah, c'était très bien.
Donc voilà, on vous conseille d'ailleurs Channel Zero, la saison 2, No End House, qui parle justement de ça. Allez, une autre histoire maintenant pour continuer à frissonner.
La poupée de Tales. Sonic R est un jeu vidéo de course mettant en scène le fameux hérisson bleu de Sega et ses amis Knuckles et Tails. Un peu à la manière d'un Mario Kart, mais sans le kart, puisqu'il court, et sans Mario. Le jeu est sorti en 1997 sur Saturn, la console maudite de Sega. On y découvre notamment dans ce jeu des doubles des héros classiques Metal Knuckles et le double maléfique de Knuckles, et Tails Doll, la version mi-poupée, mi-robot de Tails, le gentil petit écureuil orange. La première chose étrange dans ce jeu, c'est l'apparence de la poupée Tails. Grosse couture apparente, aspect désarticulé, absence de bouche et des yeux ronds sans expression, cela n'empêche pas un père et son fils en 1997 de se rendre en magasin pour acheter leur copie de Sonic R. Dans une opération promotionnelle, le vendeur explique au papa qu'il peut offrir à son fils la vraie poupée Tails pour seulement 10 francs supplémentaires. Devant l'insistance de son fils, le père cède rapidement. Il vit l'étrange poupée, la trouva un peu laide, pas forcément bien finie, mais tant qu'elle plaisait à son fils, cela ne lui posait pas de problème. De retour à la maison, en début d'après-midi, les deux lancent immédiatement le jeu. Sur l'écran titre, Sonic et Knuckles sont manquants. Seul Tails s'y retrouve. Bizarre, se dit le père. La poupée posée sur les genoux de son fils, il joue toute l'après-midi. Dans le jeu, le comportement de la poupée ressemble à un bug, Tails se déplace lévitant, les bras ballants, sans jamais toucher le sol. Il semble mal animé et bien plus rapide que tous les autres personnages. Si rapide que le papa, désemparé, ne peut jamais battre son fils. Le soir venu, la maison silencieuse, le père n'arrive pas à dormir. Il est 2h du matin et il n'arrive pas à oublier à la fois la poupée mais aussi le jeu. En mettant toutes les informations bout à bout, il se demande s'il ne s'est pas fait arnaquer ou s'il n'a pas acheté une copie pirate. Incapable de trouver le sommeil, il sort de son lit en faisant le moins de bruit possible pour ne pas réveiller sa femme, passe sur la pointe des pieds devant la chambre de son fils, descend les escaliers et s'enferme dans le salon. Il relance la console, regarde la poupée posée à côté de la télé et se dit « Allez, à nous deux ». Son choix se porte sur Super Sonic, un personnage débloqué dans l'après-midi. Il lance la course, mais le résultat est toujours le même. La poupée Tails est systématiquement trop rapide. Après 2, 3, 4 courses, rien à faire, il arrive toujours dernier. De rage, il quitte sa partie en cours et en relance une autre sur un autre circuit. Un circuit apparaît et attire son attention. Il n'était pas là quand ils avaient lancé le jeu plus tôt dans la journée. Peut-être l'avait-il aussi débloqué en jouant. Son apparence, avait l'air bien différente des autres. Son nom, composé de lettres et de signes désordonnés, n'était même pas prononçable. Une fois la course lancée dans cet étrange environnement, quelque chose n'allait pas. Le sol du circuit était rouge, si rouge qu'il faisait mal aux yeux. La musique était tout sauf joyeuse. Des notes de piano dissonantes sortaient des enceintes de la télévision. La course était sans fin. Le rouge devenait de plus en plus insoutenable, et quand le père déporta brièvement ses yeux sur la poupée à côté de la télé, celle-ci, qui n'avait auparavant pas de bouche, lui souriait. Ses yeux étaient soudainement devenus moqueurs. Un son strident émis par la télé ramena rapidement son attention sur celle-ci, et lorsqu'il regarda à nouveau la poupée, elle avait disparu. Il se leva immédiatement. Le jeu avait changé d'apparence. À l'écran, la version numérisée de la poupée Tails le regardait droit dans les yeux. Pris de panique, il se dirigea vers la console pour la débrancher, mais impossible de retirer le câble. Il entendit des bruits de pas derrière lui, se retourna et vit la poupée. Mais celle-ci était grande, beaucoup plus grande qu'auparavant, et elle avançait rapidement vers lui avec un air menaçant, comme dans le jeu, en lévitant au-dessus du sol. Devant le danger imminent, il décida de prendre la fuite. Sorti de son salon, mais sa maison aussi avait changé. Il n'en reconnaissait plus les contours. Le sol était d'un rouge sang extrêmement lumineux et les murs semblaient s'éloigner à vue d'œil. La poupée géante commençait à le rattraper, alors peu importe, il reprit sa course. Un virage serré à gauche, un virage bien négocié à droite, il commençait à prendre de la distance, mais celle-ci se réduisait à nouveau dans les lignes droites. Ce n'est qu'après avoir vu et revu, maintes et maintes fois, les mêmes courbes, les mêmes décors, qu'il comprit qu'il n'était plus chez lui. Il n'avait alors plus qu'une chose en tête, gagner cette course.
Ah là là, ce serait tellement toi, en jouant aux jeux vidéo.
Moi attends, je me fais pas absorber dans les jeux quand même.
Tu ragerais parce que t'arrives pas à battre Tails.
Ça, mes consoles, enfin, quelle image tu m'as donné de moi.
Et au bout d'un moment, tu serais piégé dans une réalité parallèle avec Tails.
Et avec cette poupée, donc, qui existe vraiment, la poupée Tails. D'accord. Enfin, la poupée Tails, pas l'objet, en tous les cas, je l'ai jamais vu, mais Tails Doll est une version de Tails dans Sonic Air, un vrai jeu, qui se déplace en fait très bizarrement. Et je pense que c'est là que naît la creepypasta. Une creepypasta un petit peu bizarre d'ailleurs, parce qu'il en existe plein de versions différentes. Aucune ne semble être vraiment très finalisée, en tous les cas pas en français. Et du coup, bah, j'ai apporté mon petit grain de sel, parce qu'il y a plein de trucs qui n'y sont pas dans la version originale, mais le comportement de la poupée, c'est un peu ce qui centralise toutes les versions des creepypasta que j'ai pu trouver, et c'est aussi ce qui est le plus flippant.
Eh ben écoute, super histoire, à mon tour maintenant. Chambre 505. Madame Vincent et Émilie, sa fille de 16 ans, étaient arrivées à Budapest par une froide journée de décembre. Les vacances de fin d'année étaient sur le point de se terminer et elle s'apprêtait à rentrer. Mais Madame Vincent ne se sentait pas bien. Et alors elles décidèrent de rester quelques jours de plus avant de continuer leur voyage retour. La ville était pleine de touristes. Malgré cela, elles purent encore trouver une chambre dans un bon hôtel. La chambre 505 était une charmante pièce avec vue sur le parc. Elle avait des murs jaunes, un tapis bleu et des meubles blancs. Les bagages étaient à peine défaits quand Madame Vincent alla se coucher. Elle avait le teint pâle, si pâle qu'Émilie alla demander au médecin de l'hôtel de l'examiner. Émilie ne parlait pas hongrois, mais heureusement le docteur parlait français. Il observa sa mère et fit rapidement son diagnostic. « Votre mère est trop malade pour voyager. Je la conduirai à l'hôpital demain, mais elle a besoin d'un médicament. Si vous pouvez aller le chercher chez moi, cela nous ferait gagner du temps. » Le docteur lui expliqua qu'il n'avait pas de téléphone et fit un mot pour qu'Émilie le donne à sa femme. Le gérant de l'hôtel appela un taxi et indiqua en hongrois l'adresse du docteur. « Cela ne devrait pas prendre trop de temps, » précisa le gérant à Émilie. « Le taxi vous ramènera ensuite. » Mais au fur et à mesure que le chauffeur arpentait les rues, le temps semblait s'étirer sans cesse. Émilie était persuadée qu'il avait pris la même rue au moins deux fois. La femme du docteur mit presque autant de temps à ouvrir la porte et à préparer le médicament. Tandis qu'elle patientait, assise sur un banc de la salle d'attente, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser « Mais vous ne pouvez pas vous dépêcher, dépêchez-vous !» Et puis soudain, elle entendit le téléphone sonner. Le docteur lui avait pourtant dit qu'il n'avait pas de téléphone. Qu'est-ce qui était en train de se passer ? Le trajet retour fut tout aussi lent. Émilie était assise sur la banquette arrière, terrifiée, serrant le médicament pour sa mère entre ses mains. Pourquoi est-ce que tout était aussi long ? Voilà ce qu'elle se demandait, avant de remarquer que le chauffeur de taxi semblait se tromper de direction. « Est-ce que vous allez au bon hôtel ?» lui demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Elle demanda encore, et toujours pas de réponse. Quand le taxi s'arrêta au feu rouge, elle ouvrit la portière et se mit à courir loin de la voiture. Elle arrêta une femme dans la rue, la femme ne parlait pas français, mais elle connaissait quelqu'un qui pouvait faire la traduction. Émilie avait raison, le taxi était bien en train de rouler dans la mauvaise direction. Elle finit par arriver à l'hôtel à la tombée de la nuit. Elle alla à la réception et demanda la clé de sa chambre. « Je suis Émilie Vincent, ma mère et moi sommes dans la chambre 505. » Le réceptionniste la regarda attentivement. « Vous devez vous tromper, » lui répondit-il. « Il y a déjà quelqu'un dans cette chambre. » « Est-ce que vous êtes sûr d'être dans le bon hôtel ?» Émilie insista. « Et vous nous avez donné la clé quand nous sommes arrivés ce matin, comment est-ce que vous avez pu oublier ?» Il la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Vous devez vous tromper, je ne vous ai jamais vu auparavant. Est-ce que vous êtes sûr d'être dans le bon hôtel ?» Elle demanda à voir le registre qu'elle avait rempli en arrivant. « Voilà, regardez, c'est Dominique et Émilie Vincent. » Le réceptionniste consulta le registre et répondit « Il n'y a rien, vous devez être dans le mauvais hôtel. » Émilie demanda à voir le docteur de l'hôtel. « Il a ausculté ma mère quand nous sommes arrivés, il m'a envoyé chercher un médicament, je veux le voir. » Le médecin arriva dans le hall. Émilie alla le voir. « Tenez, c'est le médicament pour ma mère. » « Mais je ne vous ai jamais vu de ma vie, » lui répondit le médecin. « Vous devez être dans le mauvais hôtel. » Elle demanda à voir le gérant de l'hôtel qui lui avait appelé un taxi, lui c'est certain, se souviendrait d'elle. « Vous devez être dans le mauvais hôtel, » lui répondit-il. « Laissez-moi vous prêter une chambre pour que vous vous reposiez. Vous pourrez ainsi vous souvenir où vous logez, vous et votre mère. » « Je veux voir notre chambre, » s'emporta Émilie, « la chambre 505. » Lorsque le gérant lui ouvrit la porte, Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette chambre ne ressemblait en rien à la sienne. Il y avait un lit double et non pas des lits jumeaux. Le mobilier était noir, pas blanc. Le tapis était vert, pas bleu. Il y avait les affaires de quelqu'un d'autre dans le placard. La chambre qu'elle connaissait avait disparu. Tout comme sa mère. « Ce n'est pas ma chambre, » balbutia Émilie. « Où est ma mère? Qu'avez-vous fait d'elle ?»« Vous devez être dans le mauvais hôtel, » répéta patiemment le gérant, comme s'il s'adressait à un enfant. Émilie demanda à ce qu'on appelle la police. Elle expliqua la situation. « Ma mère, nos affaires, notre chambre, tout a disparu. » « Est-ce que vous êtes sûr d'être dans le bon hôtel ?» demandèrent les officiers. Elle alla demander de l'aide à l'ambassade. « Est-ce que vous êtes sûr d'être dans le bon hôtel ?» lui répondit-on. Émilie avait l'impression de devenir folle. « Reposez-vous un instant, » lui conseilla-t-on à l'ambassade. « Peut-être que vous finirez par vous souvenir. » Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors... Il y a plusieurs explications. En fait, c'est une très ancienne légende urbaine. Elle est très ancienne. Hein. Elle date du 19e siècle, au moins.
D'accord.
En fait, moi, je l'ai trouvée dans une série de livres que j'aime beaucoup et que j'ai déjà conseillé, il me semble, qui sont les Scary Stories to Tell in the Dark d'Alvin Schwartz.
Tu en as déjà parlé.
Qui sont en fait des compilations de légendes urbaines et d'histoires de folklore. Et alors, en fait. Une des premières traces de cette histoire remonte à un article du Detroit Free Press en 1898, c'est il y a très longtemps. C'est pas clair s'il le raconte comme une histoire, c'est-à-dire comme une légende ou comme un fait réel. Mmh. En tout cas, ça a été rapporté comme une histoire vraie dans le Daily Mail en 1911.
C'est marrant.
Et tiens-toi bien, dans une émission de la Fox en 2002.
Alors mais ça, c'est marrant. Mais traité comment, du coup ?
Tout ceci est faux. Bah, en mode comme si ça s'était vraiment passé. Alors, moi, j'ai transposé l'intrigue à Budapest parce que nos personnages étaient français. Mmh. Mais en fait, ce sont normalement deux Anglaises à Paris.
Ah.
À qui ça arrive, donc. Et c'est pour ça que ça a été adapté en film. Le film s'appelle « Si Paris l'avait su ».
D'accord.
Et en fait, je vais te donner l'explication de cette histoire, ouais, parce que cette bien, histoire ouais. a une chute. En fait, l'explication, c'est que la mère d'Émilie avait la peste.
Mmh.
Et que le médecin avait peur qu'un cas comme ça, ça fasse fuir les clients de l'hôtel et que ça sème la panique dans la ville. Alors il a fait en sorte
mis ensemble.
De tout faire disparaître, comme si rien ne s'était passé. En fait, la mère d'Émilie était sur le point de mourir et il le savait. Elle est morte d'ailleurs juste après le départ d'Émilie. Son corps a été évacué de l'hôtel et enterré, et pendant ce temps-là, une équipe a tout changé dans la chambre. La police et l'ambassade, qui voulaient garder le secret sur ce cas de peste, a aussi gardé le secret. Pas de rapport, pas d'article de presse. C'est comme si l'histoire d'Émilie n'avait jamais eu lieu. Et donc dans les versions étendues de cette histoire, Émilie finit par découvrir la vérité. Et c'est là qu'on a ces fameux articles.
Oh, c'est marrant, c'est une proto-légende urbaine.
Exactement. C'est un archétype de légende urbaine qui a été beaucoup utilisé et qui a été beaucoup répété. Au point d'avoir, donc il y a Si Paris l'avait su, mais il y a d'autres films, ça a été adapté dans des épisodes de séries notamment, il y a eu des romans qui ont été faits autour. Donc c'est vraiment une très ancienne légende urbaine et j'avais très envie de la raconter ici, parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas.
Mm-hmm.
Et j'aime beaucoup cette histoire.
Et ben moi aussi, je l'ai bien aimé.
Allez, encore une histoire.
Un avertissement de Noël. Je ne cache pas que je déteste Noël. Traitez-moi de hater, insultez-moi, faites ce que vous voulez, mais chaque fin d'année, je ne ressens toujours que de la peur. Si vous me connaissez personnellement, vous devinez que c'est à cause de la disparition de mon petit frère et vous avez en grande partie raison. C'est arrivé un matin de Noël, nous aurions dû être assis en bas de notre sapin à déballer nos cadeaux, mais au lieu de ça, j'étais avec un policier qui fouillait ma maison pendant qu'un autre questionnait mes parents et le voisinage. Ils m'ont questionné aussi. Mais en tant que petite fille de 10 ans, je n'avais pas grand-chose à dire. Je leur ai dit que nous sommes allés nous coucher, excités dans l'attente de nos cadeaux, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il n'est jamais descendu ouvrir ses cadeaux, et c'est ma mère qui a constaté que sa chambre était vide. Mais tout était un mensonge. Je savais ce qui était arrivé à Chris. Je savais qu'il l'avait emmené. Et je savais que si je disais la vérité, personne ne m'aurait jamais cru. Le Père Noël a kidnappé mon frère. Ne riez pas. Je sais de quoi ça a l'air, et vous avez raison. Il ne peut pas être réel, et même s'il l'est, il est supposé être gentil avec les enfants. Mais je sais ce que j'ai vu, et ce n'est pas un fou déguisé en rouge avec une barbe blanche. Mais je devrais commencer par le début. Avant que Noël ne détruise ma famille, nous avions laissé des cookies pour le Père Noël, parler de ce qu'il pourrait nous apporter, et nos parents nous ont lu un conte après le repas. La seule chose différente cette année-là était le manque d'enthousiasme général. C'était la première année que je ne croyais plus au Père Noël. Je devenais d'ailleurs cynique à ce propos et cela préoccupait mes parents. Pour vous dire la vérité, même avant cette fameuse nuit, je n'avais jamais vraiment cru au Père Noël. En fait, je faisais semblant pour faire plaisir à mes parents et à quelques adultes. Mon frère et moi étions très différents. Lui, jeune, énergique et curieux. L'année où il a été emmené était aussi celle de l'année où il avait découvert l'endroit où nos parents cachaient les cadeaux. D'ailleurs, il a toujours refusé de me le révéler. Par contre, étant plus jeune de 3 ans, il croyait quand même au Père Noël, même si je lui expliquais le contraire. Nous montions les escaliers lorsqu'il m'interpella. « Reste debout avec moi, » dit-il en enfilant son pyjama. « Je vais te montrer qu'il est réel. On va le prendre sur le fait. On sera les premiers à le voir en vrai et il nous donnera plein de cadeaux. » J'ai soupiré. Je lui ai répondu que je préférais dormir et lui ai dit que s'il voulait y croire, il n'était pas obligé de m'impliquer. Allez, s'il te plaît, t'es pas drôle. Tu vas finir en vieille Madame Anderson. Madame Anderson était notre enseignante en primaire et je la détestais. Il le savait. Il avait appuyé sur le bon bouton. Ok, d'accord. Mais le premier qui s'endort n'aura le droit d'ouvrir ses cadeaux que l'année prochaine. Chris était évidemment partant. Nous sommes allés dans nos chambres et nous avons attendu que nos parents s'endorment pour redescendre par les escaliers. Nous avons attendu sur le canapé, en face du feu de cheminée en train de s'éteindre. Je ne sais pas combien de temps nous avons attendu avant d'entendre un gros bruit sourd sur le toit, suivi de violents bruits de pas. Je suis même sûr d'avoir entendu des clochettes. Chris m'agrippa par le bras. C'est vraiment lui! C'est vraiment lui! Qu'est-ce que je t'avais dit? Il existe! Aujourd'hui, je me demande encore comment ce bruit n'a pas réveillé mes parents. De la suie tomba du conduit de la cheminée et acheva d'étouffer les dernières braises. J'imaginais qu'il s'agissait en fait d'un voleur qui utilisait des manières peu conventionnelles pour s'introduire dans les maisons. Nous sommes allés nous cacher derrière le canapé. Je mis ma main sur ma bouche et sur celle de Chris. Il tenta de parler, mais un grognement se fit entendre dans la cheminée. De peur, Chris partit se réfugier derrière le vieux fauteuil de papa, un peu plus loin. Un épais nuage de fumée avait envahi le salon, et je gardais mes mains sur mon nez et ma bouche pour m'éviter de tousser. En relevant la tête, je vis alors l'évidence. Un homme, habillé en Père Noël, se tenait dans mon salon. Il ne m'avait pas vu, je retournai aussitôt à ma cachette. Tout concordait. La taille, l'aspect, les habits. Il était exactement le Père Noël dont rêvent les enfants, avec un air bienveillant sur le visage. J'étais surprise de voir qu'il n'avait aucune trace provenant du conduit sur sa tenue. Il avança, un immense sac sur le dos, suivi d'un petit elfe aux oreilles pointues en tenue verte. Ce petit elfe avait l'air terrifié, mais reprit un peu confiance quand il vit la pièce qu'il croyait, à tort, vide. Le Père Noël avait remarqué sa peur, mais au lieu de le rassurer, il lui lança pendant un bref instant un regard noir et terrifiant. L'elfe apeuré s'empressa de mettre les cadeaux dans les grandes chaussettes en les faisant léviter, comme par magie. Il avait sur son visage un sourire crispé. Le Père Noël avança d'un pas assuré vers notre sapin et déposa ses cadeaux. Quand l'elfe et lui eurent fini, le petit être revint tête baissée vers son patron avec de petits mouvements de mains anxieux. Même à mon âge, je remarquais que quelque chose n'allait pas, comme s'ils jouaient tous les deux, mais que cela n'était qu'une mise en scène. Tout ceci ressemblait à un tour bien répété. Mais Chris y crut instantanément. Malgré les étranges et évidents signes de malaise, je le voyais depuis ma cachette, et son visage semblait enjoué, et ma peur se réalisa bientôt. Il se leva derrière le fauteuil. Je voulais l'interpeller, lui dire de ne pas bouger, que l'on ne pouvait pas faire confiance à ces deux étrangers, mais cela nous aurait démasqués tous les deux. « Waouh, c'est vraiment toi !» murmura Chris aux deux intrus. Le Père Noël et son elfe se tournèrent vers lui, simulant une expression de surprise. « Tu nous as attendus !» lui répondit le Père Noël avec un sourire chaleureux. « Oui, je voulais prouver que tu étais bien réel !» continua Chris.
« Eh bien, on dirait que tu as réussi !» dit le Père Noël, qui s'assit sur le fauteuil de notre père et prit Chris sur ses genoux.
J'ai tellement de questions, s'exclama Chris. Est-ce qu'il y a des rennes sur le toit? Est-ce que je peux les voir? Est-ce que tu vis vraiment au pôle Nord?
Tout à l'heure, coupa le Père Noël qui avait sur son visage le sourire contenu de quelqu'un qui avait gagné la partie. L'elfe était devenu pâle et ne bougeait plus.
Les grands de l'école vont être obligés de me croire maintenant, reprit Chris.
Non, ils ne le seront pas, lui répondit le Père Noël en posant sa main sur l'épaule de mon frère. Pourquoi ? Je vais devoir garder le secret ? Le bonhomme rigola.
Tu crois vraiment être le premier à me voir ? À vouloir me prendre au piège ?
Tu sais, Chris, les enfants ne sont pas dignes de confiance. Ils sont ignorants, une progéniture égoïste désireuse de possession matérielle. Au fil des années, je me suis nourri de ces aspects de l'humain, et ces mêmes humains ne m'en ont pas tenu rigueur pour que je continue à satisfaire leurs désirs sans culpabiliser. La joie avait soudainement disparu du visage de Chris.
Les enfants qui me cherchent veulent toujours quelque chose. Plus de possessions, plus de biens qui n'ont aucun sens. Satisfaire leur curiosité mal placée ou que sais-je encore.
Cependant, il y a un prix à payer à enfreindre les règles et à chercher quelque chose qui doit rester caché. Dans le même temps, l'elfe commençait à récupérer les cadeaux que lui et l'homme avaient déposés. Il fit réapparaître un cookie que le Père Noël avait pris. Bref, ils effaçaient toute trace de leur passage. Les mains du Père Noël tenaient fermement Chris.
« J'ai toujours besoin d'un peu plus d'aide, » reprit-il. « Les enfants qui m'ont vu et qui ne peuvent garder un secret sont de parfaits candidats. »
Chris était apeuré. Il commençait à réaliser son erreur.
« Tu n'es pas le premier et ne seras pas le dernier à faire ce genre de coup. »
Il se tourna vers l'elfe et lui cria.
« Vas-y maintenant, transforme-le. »«
Non, s'il vous plaît, ne me faites pas faire ça, » supplia l'elfe. Le Père Noël lui lança un regard de dédain, fit un geste étrange avec sa main droite et l'elfe, commença, dans une vision d'horreur, à griffer son propre visage jusqu'au sang. Il fit le même geste à l'envers, et l'elfe s'arrêta immédiatement. Son visage avait cependant eu le temps de se couvrir de son propre sang. Chris hurla, réussit à s'échapper et courut de l'autre côté du salon, mais le vieil homme fit un autre geste qui arrêta mon frère Dnet dans sa course. Il le retourna et se mit à marcher lentement en direction de l'homme.
« Tu vois, il est trop tard pour toi, » dit-il d'un air triomphant.
L'homme se retourna vers l'elfe. « Maintenant fais-le, » ordonna-t-il. L'elfe laissa échapper un sanglot à la vue de mon frère terrorisé.
« Je suis désolé, » dit-il, en prenant sa petite baguette argentée dans sa tenue.
Ses larmes se mêlaient au sang sur son visage. Il pointa sa baguette vers Chris et, en à peine quelques secondes, mon frère se mit à fondre. Des morceaux de tout son corps dégoulinaient, comme si sa chair superflue s'échappait en tombant sur le sol. Mon frère, tel que je le connaissais, était en train de disparaître. Il ne pouvait même pas crier. Il était immobile et regardait fixement l'elfe. La transformation terminée, mon frère était plus petit, plus maigre, ses oreilles étaient devenues pointues, son nez plus gros. Même ses vêtements s'étaient transformés et ressemblaient à ceux de l'elfe. Le sourire aux lèvres, l'homme souleva mon frère d'une seule main et l'emporta par la cheminée. Je laissai à ce moment ma tête dépasser d'un coin du canapé et poursuivre mon frère du regard. Nos yeux se croisèrent. Son regard, plein de désespoir, continue de monter. Qu'aurais-je bien pu faire ? Rien. J'en fais des cauchemars encore aujourd'hui. J'entends encore l'homme et son elfe refermer la trappe de la cheminée et remonter sur le toit. C'était la dernière fois que je voyais mon frère. Je suis resté toute la nuit sur le canapé à pleurer, en état de choc. Depuis ce jour, je ne fête plus Noël, ne décore pas, n'offre pas de cadeaux, je ne vais pas aux fêtes et ne sors plus à cette période. Bordel, cette année j'ai même refusé de rentrer dans une maison parce qu'elle avait une cheminée. Je me demande comment mon frère a fait pour garder le secret, pour ne pas dire que moi j'étais là, que moi aussi j'avais vu ce monstre et son elfe. J'ai vu toute la scène et j'ai peur chaque année qu'ils viennent me chercher. Mais pas cette année. Je veux savoir ce qu'est devenu mon frère. Je veux des réponses à mes questions. J'en ai assez d'attendre dans la peur. Nous sommes le 24 décembre. Je suis dans la maison de mes parents. J'attends sur le canapé du salon. Minuit approche. Souhaitez-moi bonne chance.
Donc c'est un témoignage qui fait froid dans le dos.
Un témoignage. Tu t'écris sur BFM TV.
Un faux témoignage, évidemment. Non, mais c'est une histoire très sympa en cette période de Noël, effectivement.
Elle est pas mal, hein.
Et qui en dit long sur la manière dont on fête Noël, hein, sur ces enfants qui fabriquent des jouets à l'autre bout du monde pour les autres enfants.
Voilà, ces enfants pourris gâtés.
Il y a une espèce de morale et de discours anticapitaliste qui est...
Ouais, c'est ça, exactement, il y a une morale anticapitaliste derrière cette histoire. Mais ouais, je la trouvais pas mal, alors je l'ai lu sur un site, je l'ai traduite en fait, parce que je l'avais trouvée qu'en anglais, elle est disponible sur creepypasta.wikia.com, ça s'appelle Christmas Warning, et en fait, en la traduisant, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà entendue quelque part, et je me demande si... The Last Podcast on the Left, dans leurs épisodes aussi Creepypasta, s'ils ne l'avaient pas raconté. Parce que en la traduisant, en fait, en faisant le travail de traduction, je me suis rendu compte que l'histoire me disait un petit peu quelque chose. Et alors, j'ai juste rajouté un petit paragraphe à la fin parce que l'histoire est super, je trouve. Mais en fait, la fin, elle laissait un tout petit peu à désirer. Et en fait, il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de chute. Alors que le truc dans une creepypasta, quand même, c'est d'avoir un petit cliffhanger, un petit truc qui ramène au temps présent ou quelque chose comme ça. Et là, il n'y avait pas du tout ça. La personne disait juste qu'elle vivait dans la peur. Et je trouvais que la fin était un peu plus intéressante si elle ramenait à disons, une tentative de vengeance.
Bah écoute, ça me donne envie que t'écrives une suite.
Ah, carrément.
Parce que maintenant, tu nous laisses sur ce cliffhanger. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe.
Ouais.
Sur ces retrouvailles entre le méchant Père Noël et cette pauvre petite fille.
Le retour de la vengeance.
Ce numéro spécial du Bureau des Mystères est désormais terminé. C'était vraiment très cool de faire un deuxième volume de ce Creepypasta et légendes urbaines.
Ouais.
Je suis même un peu triste que ça s'arrête parce que j'adore entendre des histoires effrayantes. J'ai adoré écouter les tiennes ce soir. Parce
que, bon, et moi j'ai adoré écouter les tiennes.
Oh bah écoute, c'est très gentil. On se sentait un petit peu comme dans une ambiance feu de camp. On l'avait déjà dit, c'est vraiment l'ambiance qu'on essaye de retrouver dans cette émission. Et pff, allez, tu sais quoi? Il me reste encore une petite de derrière les fagots et je n'ai pas très envie de résister à l'envie de la raconter. Elle est très courte, donc rassurez-vous. Vas-y. Elle s'appelle Jimmy et Martin. Jimmy en avait vraiment marre de Martin. C'était pourtant son meilleur ami, et ce depuis de nombreuses années. Mais ces derniers temps, Jimmy avait commencé à douter de Martin. Il pensait qu'il le manipulait. À chaque fois qu'ils se retrouvaient tous les deux, Jimmy avait toujours cette désagréable impression que Martin l'obligeait à agir, à ressentir ou à penser d'une certaine manière. Quand ils se parlaient, Jimmy avait toujours l'impression de seulement dire les choses que Martin avait envie d'entendre. Cette situation est restée telle quelle pendant des années, mais les choses se sont aggravées. À tel point que Jimmy a fini par sentir qu'il n'avait plus aucun libre arbitre quand Martin était dans les environs. Jimmy voulait être libre, libre de dire ce qu'il pensait vraiment à Martin, mais il n'avait jamais eu le courage de le faire, jusqu'à ce qu'il finisse par exploser. Jimmy, dans un accès de rage, a fait un doigt d'honneur à Martin et a crié « Va te faire foutre, j'en ai marre de me faire manipuler !» Ce jour-là, les adultes du public ont couvert les oreilles de leurs enfants, choqués par ce qu'ils pensaient être un spectacle tout public. Martin, le ventriloque, était absolument terrifié.
Oh!
Ah, on aime bien cette fin. Hein.
La marionnette qui se rebelle.
Et bien écoute, c'est sur cette dernière histoire de marionnette flippante que je pense qu'on peut conclure l'émission.
Eh ben allez, on conclut. Eh bien, le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille. Et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @BDMlePodcast, sur Facebook, sur notre page Charles et Mathias. Vous pouvez également nous laisser des avis sur iTunes. Et d'ici là, Mathias,
D'ici la prochaine fois.
D'ici là, continuez à vous abreuver d'histoires effrayantes comme celle-ci.